France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Gary Hoffman, violoncelliste, né à Vancouver le 24 juin 1956.
On sent que c'était pas simple dans votre famille de communiquer, de dire, de parler, que c'est aussi le fruit d'une époque, de parents qui sont nés dans les années 20. Mais Gary Hoffman, est-ce que vous diriez que la musique était votre langage, à vous les enfants et les parents, et que dans ce langage-là, on le partageait en jouant ensemble, les enfants en quatuor, à jouer avec votre mère, votre père, est-ce qu'il jouait d'un instrument ?
Il jouait du violon, il était bon violoniste. On a fait beaucoup de concerts ensemble, en fait. Dans la période à Floride, on a créé un quatuor avec mon frère. Et on a fait des concerts plutôt en Floride, des tournées. Même si on était déjà partis, par exemple, faire des études à Indiana ou mes deux frères à la Juilliard aussi, à New York, il y avait toujours des vacances Noël, des vacances printanières. Donc, on est rentré avec ma sœur aussi pour passer un peu de temps en Floride. C'est quand même agréable. Il y avait du soleil et tout. Mais il y avait des périodes, je dirais par exemple, dans 2 semaines, 10, 11 concerts. Ben, tous les jours.
Avec votre ensemble familial.
Exactement. Donc, j'ai pu jouer pas uniquement le répertoire pour violoncelle, mais l'équateur, peut-être pas tous, mais j'en ai joué pas mal. Des quintettes avec piano avec mon frère aîné et autre chose. Quelque part, ça donne une perspective complètement différente par rapport à ce qu'on peut apprendre dans une école de musique, qui est bien. Mais ça, c'est quelque chose qui était à la maison et autour de moi, sur le quotidien. C'est vrai, c'est différent.
La vie quotidienne, Gary Hoffman, votre famille, quand vous repensez à vos années, par exemple, d'école, quand vous n'êtes pas très vieux, avait une place particulière, vos copains à l'école, les camarades se disaient « Ah bah oui, les Hoffman, ils sont tous musiciens, ils font tous de la musique. » On peut se laisser un peu aspirer aussi par des familles comme ça, où l'intérêt commun pour un art est si fort.
Vous avez raison, ça posait des problèmes de temps en temps, pas tellement à Chicago, j'étais plus jeune. Je pense que les gens savaient, il y avait quelques articles dans les journaux, on a passé un peu à la télé. Je pense que les gens, ils savaient, mais les gosses de 12 ans, 13 ans, ils faisaient pas trop attention à ça. Moi, j'essayais d'avoir une vie plutôt normale avec mes copains. Sortir après l'école, faire des trucs comme ça. En même temps, c'est vrai que j'étais pas disponible, aussi disponible qu'eux, parce que moi, évidemment, c'était faire le devoir comme tout le monde, mais aussi travailler l'instrument. Et pas 15 minutes. Donc c'est vrai que ça te bouffe les soirées après l'école. Donc déjà, il y avait ça. Mais après tout, je peux pas dire que j'ai pas eu d'enfance. Non, je peux pas dire ça. Je sais pas si c'était aussi bien équilibré que j'aurais voulu, mais je pense que mes parents, ma mère de toute façon, étaient conscientes du besoin, de la nécessité d'avoir quand même une vie d'enfant. C'est important. Et même pour être musicien. Après, en Floride, c'était différent parce que c'est pas contre la Floride du tout, mais c'est vrai que Chicago, c'est vraiment une ville culturelle. Il y avait de quoi à se nourrir de tout ça. La musique existait là. En Floride, il n'y avait rien. Et j'étais le seul musicien classique au lycée. Le seul. Et on était, je ne sais pas, 1500, 2000. Donc, je me suis senti un peu isolé. Et après, il y avait quelques potes qui s'intéressaient un peu à ce que je faisais et qui me demandaient de temps en temps de jouer pour eux. Ils aimaient beaucoup les suites de Bach. Mais après tout, ces années en Floride, pour moi, n'étaient pas les plus joyeuses parce que c'est vrai que j'étais évidemment de plus en plus impliqué dans la musique et sur la voie, j'espérais, si j'ose dire, sur la voie de un jour avoir une carrière. Et il n'y avait personne d'autre de mon âge qui pouvait vraiment partager ma vie. Donc, c'était difficile pour moi. Après, évidemment, quand je suis parti à Bloomington, les choses ont beaucoup changé.
Si on revient, Gary Hoffman, au déroulé, vous découvrez le violoncelle, donc avec le violoncelle de votre tante, vous avez 8 ans, c'est à peu près le moment où vous êtes à Chicago, alors c'est ça? Ça se passe quand vous êtes à Chicago?
Exactement.
À ce moment-là, il y a un premier professeur?
Oui, j'ai pris quelques cours avec ma tante. C'était quelqu'un de très artistique, assez spécial. Et on a senti, elle, moi et mes parents, que c'était pas forcément la meilleure solution. C'est souvent le cas entre membres d'une même famille. Ça manque un peu de distance, d'objectivité, tout ça. Donc, heureusement, il y avait quelqu'un de très très bien, un grand professeur de violoncelle, qui donnait cours aux élèves de pas tous les âges, mais d'assez jeunes, jusqu'aux âges universitaires. Il s'appelait Carl Froh. Carl Froh, un Américain de l'origine allemande. Et j'ai eu la chance de tomber sur lui. Et ça s'est très très bien passé pendant 5-6 ans. J'ai travaillé avec lui.
Comment il était ce professeur? Parce que je crois que c'était quelqu'un qui était grand admirateur d'Emmanuel Feuermann, par exemple.
Feuermann,
Donc c'est toute une lignée aussi.
absolument. En tant que violoncelliste, beau sang, il savait chanter sur l'instrument. Expressif, naturel. C'était vraiment le violoncelle qui chante. Et j'ai eu la chance parce que c'est vrai que son approche physique et musicale était tellement naturelle que finalement, ça donnait la possibilité de trouver sa propre voix, sa propre manière ou façon de faire. C'est vrai que après, en travaillant avec Starker, j'ai compris que ça s'est passé de la bonne manière parce que, par exemple, commencer avec Starker et après aller chez Carl Froh, ça n'aurait pas eu le même sens. Et quelque part, dans l'approche instrumentale, aussi bien que musicale, c'était plus, je dirais, général. Starker, c'était déjà d'une autre perspective, beaucoup plus particulier dans sa façon de penser et faire. Et c'est vrai que je pense que du coup, j'ai pu développer certaines choses qui me servaient de base toute ma vie.
Ce qui est drôle, c'est, vous avez évoqué Gary Hoffman, le fait d'un souvenir à Vancouver, d'avoir vu Leonard Rose avec votre père. Je crois que Carl Froh, on l'appelait le Midwestern Leonard Rose.
Mais c'est exactement ça. Lui, il appelait lui-même Midwestern Leonard Rose. C'était le même style de prendre l'instrument, de faire chanter, de concevoir le son, etc. Le vibrato, la façon de mettre comme on dit, le beau violoncelle. Voilà, c'était ça. Et respirer, chanter, avoir une implication totale du corps, pas exagérée, mais pas raide, naturelle.
même temps, quand on regarde, par exemple, des vidéos Gary Hoffman de Feuerman, c'est l'assise mort.
Je pense bien que c'est pas quelqu'un qui bougeait beaucoup. Mais à cette époque-là, les gens ne bougeaient pas beaucoup. Piedigorski non plus, Casals pas du tout, Heifetz pas du tout. Ces gens-là, ils ne bougeaient pas. C'est complètement différent aujourd'hui. À cette époque-là, ils mettaient tout dans le jeu et il n'y avait pas de mouvement inutile ou à côté. Tous les mouvements, toute l'énergie dans le jeu. Après, je ne dis pas que ce n'est pas comme ça aujourd'hui, mais je pense bien que c'est un peu différent dans la façon de faire. Physiquement, ils étaient complètement impliqués dans les gestes et dans le son. Mais vu de l'extérieur, il donnait peut-être l'impression d'être un peu raide. Mais c'est pas du tout vrai. Starker non plus. C'est quelqu'un qui bougeait pas du tout, mais il était tout sauf raide quand il jouait. Et c'est pour ça qu'il pouvait jouer jusqu'à très tard dans sa vie. Après, les gens qui dépensent énormément d'énergie, je dirais, de manière par moment un peu inutile, souvent, plus tard, ils ont des problèmes physiques. C'est vrai que ça soit mon premier professeur, Carl Frew ou d'autres, on m'avait toujours parlé de l'importance de la conscience de son corps et de comment on joue. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'on soit conscient de comment on s'assoit, où on se met sur la chaise, l'angle, la longueur de la pique, des choses comme ça. Évidemment, on peut penser à jeune que c'est le professeur qui dit, voilà, il faut faire comme ceci, faire comme cela. Mais en fait, j'ai toujours compris que, en fait, le but, c'était de faire le plus naturel possible.
De trouver sa propre liberté.
Sa propre liberté et équilibre corporel, etc. Et je pense, bon, je croise les doigts, mais je pense que ça m'a servi. Parce que c'est vrai que, jusqu'à présent, j'ai pas eu énormément de problèmes physiques, pas de tendinite, les trucs comme ça, et j'en connais beaucoup qui ont eu. Jusqu'à présent, j'ai pas eu ce type de problème, donc peut-être c'est la chance, j'en sais rien, mais je pense quand même le fait d'être conscient toujours de comment on joue, de ce qu'on fait avec son corps, que faire n'importe quoi, c'est pas la solution. Je constate qu'à chaque fois où je me retrouve avec le violoncelle et je sais que, par exemple, j'ai pas pu travailler les jours avant et que je prends le violoncelle, évidemment, je peux jouer quelque chose, c'est pas le problème. Mais je sens qu'il y a un déclic. Il y a un moment de déclic quelque part où je retrouve les sensations physiques. Et là, tout se met en harmonie. Et quand ce truc arrive, voilà, il y a un tout. Je me sens au complet.
Les grands entretiens de Gary Hoffman France Musique.
Vous avez dit, Gary Hoffmann, en parlant de Carl Pfou, qu'il faisait chanter son violoncelle. Et tout de suite après, vous avez parlé de la respiration. J'imagine que les deux choses sont liées, parce que le violoncelle est un instrument qu'on peut jouer en faisant de l'apnée. Je veux dire, il n'y a pas besoin de notre souffle, mais en fait, il y en a besoin. Comment vous l'avez trouvé, ça? Est-ce que vous vous souvenez? Ou est-ce que, par exemple, Carl Pfou, ou vous-même, qui êtes professeur, vous faites chanter, vocalement, j'allais dire, les élèves, des phrases
Absolument, je le fais moi-même et j'insiste aussi très souvent aux élèves de le faire, aussi dans les masterclass, je parle des élèves qui ne travaillent pas régulièrement avec moi, mais j'insiste là-dessus pour deux raisons, parce que souvent on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe dans cette phrase? J'arrive pas à capter le truc qui fait que cette phrase s'avit quelque part. Et moi, je pense que la plupart du temps, on a la réponse. Mais on n'en est pas conscient. En chantant la phrase ou le geste, je ne sais pas quoi, souvent on règle le problème tout de suite. Parce que l'idée et l'impulsion, elle est là quelque part. Mais elle n'a pas encore entendu. On n'a pas encore vraiment trouvé, mais elle est là. Donc en chantant, l'idée, elle sort. On l'entend et après, on voit comment la traduire au violoncelle. Donc, selon la façon de chanter, c'est poussé, c'est tiré, c'est beaucoup de vitesse d'archet, très peu, pression, c'est vers le chevalet ou pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais, pour être en état de pouvoir chanter, bien chanter ou mal chanter, c'est même pas le problème, juste chanter. Pour être en état de le faire, il faut quand même une certaine conscience corporelle. Et pour moi, cette sensation et cet état d'être est exactement le même quand on joue. Ça devrait être le même. C'est-à-dire que si on est complètement coincé, on n'arrive pas. Il y a beaucoup de gens qui jouent le violoncelle comme ça. Je suis persuadé qu'on ne peut pas faire chanter le violoncelle si on n'arrive pas à avoir le lien direct entre ce que c'est respirer, chanter avec le corps et comment ça se traduit au violoncelle. Je sais que c'est vrai. Je sais par mon expérience et mes expériences avec des élèves, je sais que c'est vrai. Après, évidemment, on est confronté à plusieurs problèmes parce qu'on peut avoir des tensions psychologiques, techniques. Justement, on revient au problème de base. Comment on s'assoit, comment on prend l'archet, etc. Positionnement des pieds, sentir un contact avec le sol, la puissance qui vient des jambes, de penser au dos. On a tendance quand même à penser à ce qui se passe uniquement, je dirais, au point de contact, c'est-à-dire les doigts sur l'archet et les doigts sur la corde. Mais ces bouts de doigts ou les doigts eux-mêmes, ce sont des tributaires de tout ce qui se passe derrière. Commençons par comment on s'assoit, déjà, avant l'instrument. Et l'instrument qui fait partie du corps et pas le contraire.
Gary Hoffmann depuis de nombreuses années maintenant, le violoncelle à Mathy de Leonard Rose, une figure qui comme ça de part en part dans votre histoire vous a suivi d'une manière ou d'une autre. C'est un violoncelle du XVIIe siècle qui a naturellement son âme, qui a été joué par Léonard de Rose, mais par d'autres, et qui sera joué par d'autres, sans doute aussi. Ça aussi, c'est une affaire de perspective. Est-ce que vous diriez que le son, on l'a en soi? Je veux dire, qu'est-ce que cet Amati avec Gary Hoffman? Est-ce qu'il est particulier?
Oui, il est particulier, il a sa propre personnalité. J'espère avoir la mienne. Mais je peux vous raconter une histoire. J'avais jamais travaillé avec Rose. On a évoqué Karl Fruch, Janosch Starker. Je l'avais rencontré, mais j'avais jamais joué pour lui. Et après avoir acheté ce violoncelle, et à cette époque-là, dans la biographie, le violoncelle n'a pas été mentionné. Et ça m'est arrivé plusieurs fois pendant un an que les gens que je connaissais pas sont venus après me voir dans les coulisses et ils me posaient à chaque fois la même question. Est-ce que vous avez travaillé avec Leonard Rose? Et j'avais compris que c'était à cause du violoncelle, qu'il y avait quelque chose de tellement fort dans ce violoncelle qui sortait malgré, grâce à, ou je sais pas, moi. C'était le violoncelle. Et que probablement le violoncelle était imprégné aussi par la personnalité de Leonard Rose et sa façon de faire le son, etc., tout ça. Ça a duré un an. Et c'est vrai que moi-même, j'avais senti que j'étais pas tout à fait à l'aise avec l'instrument. Évidemment, c'était un très grand violoncelle, j'étais aux anges, mais j'ai senti que j'étais pas encore en harmonie totale. Ça m'a pris du temps. Mais pendant un an, j'ai entendu cette question et après, plus rien. Pas une seule fois depuis.
Parce que vous l'avez apprivoisé.
Je pense qu'il y a eu des changements des deux côtés. Le violoncelle, je pense qu'il a changé aussi bien que moi. Je sens que le rapport que j'ai aujourd'hui, certainement à 34 ans après, mais même avant, n'est plus le même que j'avais au tout début avec ce violoncelle. Bon, c'est une belle histoire et je suis sûr que de toute façon, l'instrument lui-même retient la personnalité de l'instrumentiste. Bah, la preuve, cette histoire.
Est-ce que quand on a un instrument comme ça, Gary Hoffman, qui d'une certaine façon est inattaquable, c'est un très bel instrument, magnifique. Quand on n'est pas content, on ne peut accuser que soi-même.
Ça, c'est quelque chose que j'ai compris tout de suite. Parce que jusqu'à là, j'avais un très bel instrument avant. Vraiment. Mais c'était pas ça. C'était un très, très bon violoncelle. Mais jusqu'à l'Amati, j'avais toujours, si vous voulez, la possibilité de trouver des excuses ailleurs. Une fois que j'ai pris cet instrument, j'ai compris que tous les problèmes de son sont de mon côté. Et quelque part, c'est libérant parce que tu te poses plus de questions. C'est pas l'instrument dont tu dois chercher. Mais ça serait malhonnête que je dise que je jouerais absolument pareil sur n'importe quel instrument. Je pense que si je prends un bon instrument, je peux jouer quelque chose. Personnellement, j'aimerais pas rentrer sur scène avec un autre violoncelle. Si j'étais obligé, je pourrais, bien sûr, bien sûr. Mais ça fait partie de moi. Et peut-être l'inverse aussi, mais c'est ma voix.
Le largo de la sonate de Chopin par Gary Hoffmann et Jean-Philippe Collard pour refermer le deuxième épisode de ces grands entretiens avec Gary Hoffmann. Réalisation Perrine Mingui, prise de son Sandrine Malon, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait, demain, dès 13h, les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.